À 18h au studio Kalangou, le journal en français, c'est tout de suite. Voici nos titres. Le ministre de la Santé publique, Dr Iliassou Idi-Maina-Sara, confirme que ses services ont été alertés par la découverte par une officine de la place d'un lot de faux vaccins contre la méningite. Une enquête a été ouverte. Le ministre invite tous les acteurs du secteur à la vigilance. Après plusieurs semaines de discussions, le gouvernement et la Fédération unitaire des syndicats de l'éducation du Niger, FUSEN, ont signé ce matin à la primature un accord. Les deux parties ont convenu de la mise en place d'un comité de suivi et de poursuite des négociations sur les points n'ayant pas fait objet d'accord. Un projet de loi portant création d'un fonds climat national initié par la plateforme de la société civile sur le changement climatique et le développement durable a été remis ce matin au ministre en charge de l'environnement. Enfin, la partie magazine de ce journal est consacrée à l'état des lieux des examens, brevets et bac avec le directeur général des enseignements du ministère des enseignements secondaires. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue. D'abord, le point sur cette affaire de faux vaccins contre la méningite qui circulait depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Pour faire la lumière sur cette affaire, le ministre de la Santé publique a réuni la presse hier. Il a confirmé que ces lots de vaccins contrefaits circulent, mais il affirme que ce vaccin a été identifié par les services agréés après que la rumeur leur soit parvenue. En conséquence, Dr Iliassou Idi-Maina-Sara demande aux pharmacies et autres chaînes d'approvisionnement en médicaments d'informer les services compétents dès qu'ils seront en contact avec des produits contrefaits. Dr Iliassou Idi-Maina-Sara, ministre de la Santé publique.
Dès que nous avons eu cette information, nous avons pris des dispositions. Puisque généralement, quand le produit passe, nous avons un laboratoire agréé de contrôle et que tous ces produits doivent passer par ce laboratoire pour être identifiés. Et c'est ce qui nous a permis d'identifier ce vaccin, ce qui nous a amené à rendre public un communiqué. Entre-temps, il y a eu une pharmacie ici à Niamey qui a constaté dans ses lots de vaccins ce genre de vaccin avec la même identification. La lettre a été adressée à l'OMS et c'est en ce moment-là que l'OMS a donné l'alerte. On a passé à la télé la photo du vaccin et on a demandé à toutes ces chaînes d'approvisionnement, une fois qu'ils sont en contact avec ce lot, de contacter les services compétents. Actuellement, les inspecteurs sont déjà dans pratiquement toutes les centrales, toutes les pharmacies pour vérifier pratiquement tous les vaccins.
Propos recueillis par la télévision La Barry. Le gouvernement et la Fédération unitaire des syndicats de l'éducation du Niger, FUSEN, ont signé ce matin à la primature un accord et ce après plusieurs semaines de discussion. Cet accord s'articule autour de nombreux points, dont le paiement à terme échu des pécules des enseignants contractuels, la question de l'évaluation des enseignants et celle du recrutement. Aussi, les deux parties conviennent de la mise en place d'un comité de suivi et de poursuite des négociations sur les points n'ayant pas fait objet d'accord. Issoufou Arzika, coordonnateur de la FUSEN au micro d'Adama Dawaki.
Le gouvernement réaffirme son engagement à assurer la régularité du paiement des pécules à terme échu. Le principe de la grille spéciale est acquis et le gouvernement est d'accord avec la poursuite des travaux du comité afin de produire un rapport définitif. Toutefois, la mise en œuvre de cette grille spéciale ne peut se faire dans l'immédiat eu égard à la conjoncture économique et financière défavorable. Le gouvernement s'engage à octroyer des numéros matricules aux 346 enseignants nouvellement engagés au titre de l'année 2012-2013 du ministère de l'enseignement primaire et à les mettre en solde en juin 2017. Mettre en solde en juin 2017 288 des 1440 enseignants nouvellement engagés au titre de l'année 2014 du ministère de l'enseignement secondaire sur la base des critères définis de commun accord. La mise en solde du restant, c'est-à-dire les 1152, interviendra en janvier 2018. La FUSEN considère que l'évaluation telle que voulue par le gouvernement est illégale et la rejette par conséquent.
Issoufou Arzika, coordonnateur de la FUSEN. L'Union des étudiants nigériens à l'université de Zender, UNUS, a lancé un mot d'ordre de grève de 48 heures à compter d'aujourd'hui. Ce mot d'ordre dit d'avertissement aux autorités administratives et politiques suspend toutes les activités académiques au sein de l'université de Zender. Joint par Studio Kalangou, le secrétaire général adjoint de l'UNUS, Lawali Garba Ismaël, précise, je cite, les enseignants, technologues et le rectorat n'arrivent pas à s'entendre et cela perturbe les cours. C'est pourquoi, a-t-il poursuivi, nous avons lancé ce mot d'ordre afin de ramener les différents acteurs autour de la table pour trouver urgemment une solution aux problèmes pouvant compromettre dangereusement l'avenir de l'étudiant à l'université de Zender. Fin de citation. Une ancienne enseignante chercheuse à la faculté de sciences juridiques et politiques de l'université Abdou Moumouni de Niamey, Elisabeth Chérif, politologue, a tenu un sitting avant-hier devant les bureaux du rectorat. Elle entendait protester de cette manière avec le soutien de quelques acteurs de la société civile nigérienne contre la décision qui l'a exclue de son métier d'enseignant en 2012. Écoutons Dr Elisabeth Chérif au micro de Tarnan Foudé Ahmed.
L'action était entreprise donc pour protester contre l'exclusion abusive et discriminatoire dont j'avais fait l'objet de l'université en 2012. Elle était liée à la maladie qui avait été diagnostiquée à mon enfant, que nous avons dû évacuer en France parce qu'elle ne pouvait pas être soignée ici. Elle était abusive parce qu'elle ne reposait pas sur les textes de l'université et aussi elle n'a aucun lien avec donc ce que recommande la législation nigérienne du travail. Depuis 2012, vous savez, lorsqu'ils ont rejeté ma quatrième demande de renouvellement de contrat, l'université n'a jamais répondu à aucun de mes courriers. J'ai essayé de tenter vraiment à ce que ce linge, que je qualifie vraiment de sale, soit lavé en famille au sein de l'université et que je n'ai pas vraiment à l'amener auprès de vous, les médias, mais aussi sur le terrain judiciaire.
Propos recueillis par Tarnan Foudé Ahmed, Dr Elisabeth Chérif a également attaqué cette décision de l'université devant les juridictions compétentes. Le 15 juin 2017 prochain, elle et l'institution seront devant le tribunal de Niamey. Joint par le studio Kalangou pour recueillir sa version des faits, le recteur de l'université de Niamey, professeur Abarchi Abibou, n'a pas souhaité s'exprimer sur cette affaire. Garindogo, village situé à une vingtaine de kilomètres de Difa, a fait l'objet d'une attaque hier aux environs de 21h. D'après des sources locales et militaires, il s'agit d'éléments de Boko Haram qui se sont introduits dans ce village à bord d'un véhicule Toyota surmonté d'une 12-7 et d'un camion militaire utilisé pour emporter les objets pillés dans au moins 4 boutiques. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Le Niger, à l'instar des autres pays qui ont traité l'accord cadre de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, aura sa loi portant Fonds climat national. Le projet de loi initié par la plateforme de la société civile sur le changement climatique et le développement durable a été remis ce matin au ministre en charge de l'environnement. Issa Garba, coordonnateur exécutif de cette plateforme, nous explique l'objectif du dit Fonds climat. Il est au micro de Habibou Garba.
L'objectif principal ici pour le Niger, c'est amener les citoyens à s'adapter au phénomène du changement climatique. C'est pouvoir mettre à la disposition de nos agriculteurs des semences et des bétails qui résistent aux effets du changement climatique. C'est aussi financer nos chercheurs pour que vraiment ils puissent créer les conditions de trouver des semences et des récoltes qui résistent vraiment à la rareté de pluie. Parce que vous savez, les pays du Sahel seront confrontés à un problème de rareté de pluie. Vous le constatez déjà.
Quelques points saillants du contenu de ce projet de loi.
Les points saillants, c'est vraiment l'inventaire des gaz à effet de serre. Il y aura un inventaire des gaz à effet de serre de société par société, d'entreprise par entreprise, d'activité par activité pour voir les secteurs qui polluent plus et pouvoir instituer ce qu'on appelle l'éco-taxe. C'est-à-dire vraiment c'est le principe de pollueur-payeur au niveau international qui sera ramené au niveau national. Parce qu'au niveau international, ceux qui polluent payent. Donc il est important qu'au niveau national aussi, que ceux qui polluent payent.
Propos recueillis par Habibou Garba. Le Niger célèbre ce jour, mercredi 7 juin 2017, la Journée africaine des frontières. À cette occasion, la Commission nationale des frontières a organisé à l'hôtel Sahel la projection d'une série de films sur la problématique des frontières autour du thème des frontières ou passerelles, selon Amadou Moukaila, le secrétaire permanent de la Commission nationale des frontières. Ces frontières ne constitue pas des barrières entre les peuples. Il est au micro de Moussa Hassan.
Nous disposons d'une commission des frontières depuis 1975. Donc, bon an, mal an, l'État fait une provision importante pour la matérialisation des frontières. C'est ce qui nous a permis, dès 1983, de borner la totalité de la frontière Niger-Algérie. Nous avons également borné la moitié de la frontière Niger-Burkina et nous sommes actuellement en train de réhabiliter la frontière Niger-Nigeria avec les fonds propres. Nous avons, comme je le dis, la GIZ qui vient nous accompagner, qui va nous apporter des ressources supplémentaires pour aller un peu plus vite dans le processus. Au-delà, pour les populations, ces frontières ne signifient rien, continuent à vivre comme ils ont toujours vécu. Les populations de part et d'autre de la frontière partagent le même terroir, c'est les mêmes populations. Donc les frontières ne sauraient les diviser. Et c'est ce message que nous voulons justement approfondir, c'est pourquoi nous procédons aujourd'hui à la projection de ces films.
C'était Amadou Moukaila, le secrétaire permanent de la Commission nationale des frontières. Le Niger abrite depuis hier au palais du Congrès de Niamey un forum sur la zone de libre-échange continentale. Trois séries de réunions sont prévues au cours de cette rencontre qui regroupe 54 pays africains et qui durera 12 jours du 5 au 16 juin 2017. Quel sens donner à la notion de zone de libre-échange continentale? Réponse avec Shakiro Tidjani, négociateur en chef du Bénin au micro de Gungum Mandantani.
Nous abordons les modalités. Quelles sont les modalités de libéralisation du commerce des marchandises et les modalités de libération des commerces de services, qui sont deux pôles assez importants. C'est à ce niveau-là que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est retrouvée. Nous avons parlé, si on doit libéraliser les échanges intra-africains, à quel taux nous pouvons accéder. Le chef de file de la communauté prendra la parole. Ensuite, les autres pays, en fonction de leur sensibilité, appuieront la position dans l'objectif de respecter le délai fixé par les chefs d'État qui veut que, à la fin de l'année 2017, on ait quand même un protocole d'accord sur la libéralisation des échanges.
Propos recueillis par Gungu Maman Dantani. 18h passé de 12 minutes, la partie magazine à présent. Vous avez pu entendre lundi dernier l'intervention du proviseur Mamadou Mokhtar du lycée Corombé qui parlait d'un taux de 75% d'exécution du programme de l'année dans son établissement grâce au dévouement de certains enseignants et de stagiaires envoyés par l'École nationale supérieure. Aujourd'hui, la parole au directeur général des enseignements du ministère des enseignements secondaires, Inoussa Garba. Il affirme que la plupart des établissements sont à plus de 75% du taux d'exécution du programme et il en est certain d'ici le jour des examens, les élèves seront prêts.
Il y a une semaine de cela, vous avez vu notre ministre lui-même, il a réuni notre cadre de concertation parce que le ministère dispose en fait de ce cadre-là pour pareille circonstance, pour réunir tout le monde, les informer. Il y a tous les partenaires dedans. Il y a eu des perturbations en cours d'année, mais qui n'a pas véritablement affecté en fait le déroulement des cours au niveau de ces classes d'examen. Vous savez, les professeurs, quoi qu'on dise, ils sont conscients de leur rôle parce qu'aucun enseignant qui tient une classe d'examen ne peut se donner le luxe de ne pas créer les conditions pour que ses élèves aient le maximum en fait du programme avant d'affronter les examens. C'est vrai, il y a certains niveaux qui en pâtissent, c'est-à-dire les classes intermédiaires. À la date du 25, il n'y a pas une seule matière où on est en deçà de son 15% d'exécution, que ce soit en terminale ou en troisième. Et je peux vous dire que le maximum est toujours en train d'être fait pour que, en tout cas, tout le programme soit achevé avant ces dates butoirs-là.
En un mois, 5 jours, est-ce que vous pensez que ces enseignants professeurs auront atteint ce taux pour que ces enfants soient véritablement prêts?
Moi, je pense que son 15%, j'ai dit, ça, c'est le taux le plus bas que j'ai pris. Il y a où des matières où ils sont à 100% d'exécution. Ouais.
Vous avez parlé de dispositions qui ont été prises par ces enseignants. Par exemple, quel type de disposition? Est-ce que vous pensez au cours de rattrapage, même pendant ces grèves?
Que ce soit du côté des enseignants ou même du côté des élèves, il y a des professeur professeurs qui disent aux enfants, allez, suivez-les, mais aussitôt revenez, on va continuer nos cours. Donc il y a des rattrapages qui se font, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de week-end. Ils font tout pour que leurs élèves soient à niveau. Ça, c'est la fierté d'un enseignant.
Nous avons entendu certains d'entre eux qui nous ont parlé de conditions difficiles de travail, mais aussi, est-ce que vous pensez que la qualité de ces cours constitue une bonne qualité qui permette aux élèves de bien comprendre? Est-ce que ce ne sont pas des condensés?
Il n'y a pas une pédagogie universelle pour faire passer un message. Chaque professeur a sa façon, à lui en tout cas, de faire passer le message et de faire comprendre l'essentiel à ses enfants. Les conditions sont identiques à tout le monde, quelles que soient en fait les difficultés, que ce soit rattrapage ou que ce soit des cours normaux. C'est un enseignement qui est dispensé et dans le même cadre de vie, que ce soit normal ou pas.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie.